Bamako et Agao, 21h à Dakar. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. À Gao, à la suite de l'arrêt de l'opération Serval, la population s'inquiète.
Jusqu'à preuve du contraire, on est en insécurité. Et les djihadistes ne sont pas loin de nous. Ils sont alentour de tout Gao. Et je pense que la France a les moyens, plus que même l'aménagement, pour notre sécurité.
Nous entendrons le reportage à Gao de notre correspondant Boubacar Touré. À Dakar, la distribution d'eau est perturbée en plein Ramadan. Rubrique santé, les cas d'Ebola continuent d'augmenter. Les populations ne suivent toujours pas les consignes de sécurité. Enfin, hommage à Nadine Gordimer dans notre page culture. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger à ce micro. Le président François Hollande effectue à partir de demain et ce jusqu'à samedi une tournée dans 3 pays africains. Le chef de l'État français commence sa tournée par la Côte d'Ivoire, puis il va se rendre au Niger et au Tchad. Le voyage en Côte d'Ivoire était prévu de longue date. Le Niger est un maillon important du dispositif militaire français et le Tchad devrait abriter l'état-major de la future opération Barkhane qui va succéder à Serval au Mali. Cette force va mobiliser 3000 hommes pour lutter contre le terrorisme en coopération avec 5 pays de la zone, notamment la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Dans le nord-est du Nigeria, la police annonce l'arrestation d'un commandant de Boko Haram dans la forêt de Balmo. Âgé de 30 ans, Mohamed Zakari, surnommé Boucher en chef, aurait été capturé dans l'état de Bauchi lors d'un assaut contre un camp islamiste. Plus de 2000 civils ont été tués cette année au Nigeria par Boko Haram. C'est le bilan qu'annonce aujourd'hui Human Rights Watch. Nouveau naufrage dans la Méditerranée, 12 migrants ont été sauvés et un corps a été repêché. C'est ce qu'a annoncé la marine militaire italienne citée par l'agence France-Presse. On ignore le nombre de personnes qui étaient à bord de l'embarcation de fortune. On ne connaît pas non plus leur pays d'origine. Au total, plus de 1500 migrants ont été secourus dans le canal de Sicile au cours des 3 derniers jours.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Afghanistan, un attentat à suicide dans un marché local a fait au moins 38 morts et 80 blessés dans la province de Paktika. Lionel Gaïma.
L'assaillant a fait exploser son véhicule piégé dans un marché à Urgun, près de la frontière avec le Pakistan. Mohamed Raza Karoti, chef du district, a dit qu'il ne savait pas quelle était la cible, mais la forte explosion a endommagé des dizaines de commerces et des habitations. Le bilan provisoire est d'au moins 38 morts, mais pourrait être revisé à la hausse. En cette période de Ramadan, le marché était bondé et il y a plusieurs dizaines de blessés, dont les femmes et les enfants. Certains ont été amenés à l'hôpital et d'autres ont été traités à même le sol. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais semble porter la marque des talibans qui ont fait des attentats suicides leur arme favorite.
Escalade de la violence au Proche-Orient, un civil israélien a été tué aujourd'hui par un tir de roquette. C'est ce qu'indique l'armée. Cité par l'agence France-Presse, l'incident s'est produit au passage de Erez entre Israël et Gaza. Cet homme de 38 ans est la première victime israélienne en 8 jours de conflit entre l'État hébreu et le Hamas. Israël affirme avoir repris ses frappes aériennes. L'État hébreu avait accepté une proposition égyptienne de cesser le feu qui a été rejetée par le Hamas. Salim al-Jabouri a été élu président du Parlement irakien, une élection qui ouvre en la voie à la formation d'un gouvernement. Michel Joseph.
Salim al-Jabouri se présentait sur une liste indépendante. Les députés irakiens l'ont élu pour occuper le perchoir réservé à un sunnite. Les députés doivent maintenant élire le président de la République qui désignera ensuite le premier ministre. Selon une règle non écrite, la présidence de la République revient à un kurde et le poste de premier ministre à un chiite. Mais Nouri al-Maliki, le très critiqué premier ministre sortant, dont le bloc est arrivé en tête des législatives du 30 avril, a déjà prévenu qu'il n'entend pas céder la place. Sur le terrain, après la débandade des forces irakiennes, les djihadistes de l'État islamique contrôlent une bonne partie du pays.
Voilà, la tension augmente entre Kiev et Moscou alors que se poursuivent les opérations de l'armée ukrainienne contre les séparatistes pro-russes. Un général ukrainien qui est secrétaire adjoint du Conseil national de défense et de sécurité a déclaré à la télévision que son pays est en passe d'être victime d'une agression massive de la Russie. La voix de l'Amérique, le sable, le vent, les nomades, le souffle du Sahel est présent. Claire Morin-Jibou.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission par le Mali, c'est officiel. L'opération Barkhane dans la zone sahélo-saharienne va succéder à Serval dans les prochains jours. Si la France évoque une opération parfaitement accomplie, je les cite, sur le terrain, les tensions et les affrontements entre communautés demeurent particulièrement dans le nord. En fin de semaine dernière, deux groupes rivaux, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, le MNLA, et le Mouvement arabe de l'Azawad, le MAA, se sont affrontés pendant plusieurs heures, non loin d'Anéfis. Yoro Mohamed Lemine, membre du MAA, témoigne sur ce qui s'est passé.
C'est un conflit qui est tendu depuis l'heure, là. Depuis lorsqu'ils étaient tombés sur nos biens à Inkhalil, vers la frontière algérienne. Là. Ils ont pris tous les biens, ils ont violé nos femmes, ils ont fait beaucoup. Donc il y a toujours un problème, quoi, une liste d'attente entre nous.
Et les combats ont duré combien de temps?
Depuis 5h du matin jusqu'à 14h.
Combien de personnes qui ont été tuées?
Oui, le bilan, de nous, on a 7-8 morts de notre côté et 8-9 blessés.
Et du côté du MNLA?
Du côté du MNLA, il parle une trentaine de morts et une cinquantaine de blessés.
Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que vous
Le calme ne s'est pas revenu.
Mais on avait compris que les Nations Unies avaient plus ou moins négocié un cessez-le-feu.
Nous, on l'a accepté. De notre côté, on l'a accepté et ils l'ont rejeté, cette négociation. Et ils ont avancé. Ils sont juste à 10 km ou même pas 10 km de Tabankor. Les humains, on les voit très bien. On les observe. Hein. Ils sont regroupés, ils veulent attaquer.
Yoro Mohamed Lemine, membre du MAA, au micro d'Idriss Fall. À Gao, l'inquiétude est de mise depuis que les autorités françaises ont annoncé la fin de l'opération Serval. Les populations qui ont vécu l'occupation ne sont pas rassurées. Quant aux jeunes qui avaient enfin trouvé du travail grâce à la présence de la force Serval, c'est le désarroi. Reportage de notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
À l'annonce de la fin de l'opération Serval et la mise en marche de l'opération Barkhane par les autorités françaises, dans la région de Gao, les populations s'inquiètent. Awassam, leader de femmes au quartier Sané.
En tant que natif de Gao, femme leader, citoyenne du Gao, moi quand même je souhaiterais que la France reste parce que jusqu'à preuve du contraire, on est en insécurité. Et les djihadistes ne sont pas loin de nous, ils sont alentour de tout Gao. Et je pense que la France a les moyens, plus que même l'aménagement, pour notre sécurité. Notre souhait est qu'il reste. On a vécu l'occupation. Et si la France doit retourner ou bien doit diminuer son personnel, vraiment, ce n'est pas un grand plaisir, ce n'est pas notre souhait.
Amadou Sarr, responsable de jeunes patrouilleurs, se fait déjà des soucis pour ces jeunes à qui la force Serval a donné de l'emploi. À cela s'ajoute l'insécurité autour de la ville.
Je vous avoue que la nouvelle, elle est inquiétante. D'autant plus que si vous voyez ce que Serval a eu à faire à Gao, si je prends un seul point essentiel qui est l'emploi des jeunes qui nous a vraiment permis de vivre tranquille quand même. Moi, je ne fais pas partie, mais il y a beaucoup de jeunes de Gao qui sont en train de travailler au camp, qui peuvent s'occuper aujourd'hui de leur famille. Si aujourd'hui nous apprenons le départ de Serval, c'est inquiétant. Par rapport au plan sécuritaire, le mot Serval, c'est une habitude pour la population de Gao. L'appellation Serval seulement rassure. Même si on change d'appellation, ça ne serait pas bon. Même si la mission Serval doit rentrer, qu'une petite partie de Serval reste. L'appellation Serval reste.
Que les forces françaises prennent en charge la sécurisation de tout le Sahel est plus rassurant. Mais avant, les populations qui ont vécu l'occupation doivent comprendre l'intérêt de cette nouvelle disposition. C'est ce que pense Idrissa Sarongo, fonctionnaire à la retraite au quartier Château.
Moi, je pense que quand on prend l'ensemble du Sahel, c'est plus rassurant par rapport à ce que nous avons vécu. Ce n'est pas seulement Gao, Tombouctou, Kidal. C'est l'ensemble du Sahel qu'on doit sécuriser. Les gens étaient habitués à la présence de la force Serval. Certaines activités ont démarré. Si maintenant on dit que cette force-là doit partir, Mais les gens vont se poser beaucoup de questions. Parce que tout simplement, c'est l'angoisse qui s'installe par rapport toujours à ce que les gens ont vécu. Le transporteur va se poser la question. Est-ce que je peux faire mon transport normalement? Le commerçant qui vend ses produits au marché, il va se poser la question. Est-ce que j'aurai des produits? Même si j'ai des produits, est-ce que je pourrais les vendre? Parce que le tissu économique, ça avait démarré un peu. Maintenant, cette force qui a rassuré les gens, cette force-là va partir. Les gens vont se poser beaucoup de questions. Est-ce que nous n'allons pas revenir à l'ancienne situation? Il faut qu'on donne des explications rassurantes à la population.
Gao Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
Gao, vous nous écoutez sur le 101.7 FM sur la radio Ahadar Coïma. Au Sénégal, perturbation dans la distribution d'eau à Dakar, la capitale. Depuis vendredi, les robinets sont à sec ou coulent timidement. La SDE, la société en charge de la distribution d'eau, explique cette situation par des travaux à l'usine d'eau de Cœur Momarsar. Pour le moment, les populations se démènent pour trouver ce précieux liquide. Reportage de notre correspondante dans la capitale sénégalaise, Dienaba Sedouba.
Les robinets coulent timidement, les bassines peinent à être remplies et les populations terriblement désemparées ou simplement fâchées. Depuis samedi, beaucoup de quartiers de la capitale sont privés d'eau. La Société des eaux du Sénégal explique cette pénurie par des travaux entrepris à Cœur Momarsar, l'usine d'eau située à Louga. La SDE a mis à la disposition des populations des camions-citernes comme alternative. Et dans certains quartiers comme la Médina, certaines populations se rabattent sur les robinets à pompe, même si l'eau est impropre à la consommation. Ce père de famille est venu prêter main forte à son épouse qui cherche le liquide précieux. Son nom, Oumar Sarr.
On a un problème d'eau, tout le monde a ça qu'on est en train de vivre. Donc, si vous voyez un père de famille se présenter pour chercher de l'eau, vous savez donc. Difficilement.
Depuis quelques jours, la dame Fatima Sow, la soixantaine dépassée, a le sommeil perturbé. Une situation désagréable, surtout en cette période de Ramadan.
On se lève tôt, préparer les barils et les bassines et les remplir très tôt. Bon, la barille, on avait ça il y a longtemps quand même. Les bassines aussi, c'était pour le linge et on ne fait que sortir, les ressortir et y mettre quand même, c'est ça.
La pénurie d'eau qui sévit depuis 4 jours à Dakar n'est pas une première. En septembre 2013, la capitale est restée pendant 15 jours sans une goutte d'eau. Une situation qui commence à irriter sérieusement les populations. Dienaba Sedouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
Santé, l'épidémie de fièvre Ebola qui frappe depuis 4 mois la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia reste d'une gravité sans précédent. Selon l'OMS et certaines ONG comme Médecins sans frontières, la maladie continue de s'étendre du fait qu'elle reste mal comprise des populations. Pourtant, rappelle MSF, si un malade est traité rapidement, ses chances de guérir sont excellentes. On écoute le docteur Bart Janssen, directeur des opérations à MSF.
Il est très important aussi que, avec notre expérience, quand on peut trouver les personnes infectées en début de période de maladie, maintenant on a une forte idée qu'on peut avoir plus de chances de les faire survivre. Donc cela aussi nous pousse beaucoup pour avoir la capacité soit de rechercher les nouveaux malades, soit de les prendre en charge rapidement dans les conditions correctes.
Sinon, le taux de mortalité est d'environ 90%.
90%, c'est le chiffre qui est connu. De toute manière, il est très élevé. Actuellement, nous avons un chiffre, dans toute l'épidémie, 70 à 80%. Donc, c'est clair que cette épidémie est en train de nous apprendre encore plus sur la prise en charge d'une maladie de l'Ebola.
La préoccupation primordiale reste d'identifier les personnes avec qui les malades ont été en contact.
Le virus est contagieux, certes. Il n'est pas si contagieux que, par exemple, une grippe. Donc, c'est vraiment le contact direct entre un malade ou une personne décédée d'Ebola qui permet de transmettre cette maladie. Le grand problème, évidemment, c'est une fois les personnes ont été infectées, leur chance de survie est pas très grande, c'est-à-dire que la mortalité est très élevée. C'est ça ce qui rend cette maladie, cette épidémie si dramatique.
Le docteur Bart Janssen, directeur des opérations à MSF, au micro de Camille Gros-Didier. La célèbre romancière sud-africaine Nadine Gordimer est morte ce dimanche à l'âge de 90 ans. Elle avait reçu le prix Nobel de littérature en 1991. Auteur de 15 romans et plus de 200 nouvelles, elle a mené un combat sans répit contre le régime de l'apartheid. On écoute le témoignage de Souleymane Bachir Diane, professeur de littérature à l'Université de Columbia.
C'est une femme de lettres exceptionnelle et le prix Nobel qui a salué son œuvre ne s'est pas trompé là-dessus. Donc il y a la créativité extraordinaire de cette femme. Et deuxièmement, il y a bien entendu son militantisme. Quand la nouvelle est tombée, tout le monde a tout de suite pensé à nouveau à Mandela. Évidemment, on sait qu'elle s'est tenue aux côtés de l'ANC, qu'elle s'est engagée aux côtés de l'ANC et qu'elle a été une amie très chère de Mandela.
Comment s'est actualisé son engagement dans la lutte contre l'apartheid?
Ces romans montrent un peu quelle est la démarche intellectuelle qui a été la sienne lorsqu'elle s'est engagée aux côtés de ceux qui luttaient pour la libération de l'Afrique du Sud et pour la démocratie en Afrique du Sud. Elle raconte souvent dans ses romans l'histoire de personnes, de femmes blanches qui, au départ, ne sont pas politiques du tout. Je pense à un roman comme A World of Strangers, un monde d'étrangers, où quelqu'un qui est apolitique au début s'engage progressivement parce que cette personne réagit contre les injustices et a des amis noirs, etc. Et donc, c'est la même chose qui est arrivée à Nadine Gordimer. Il était prédisposé, je crois, familialement. Sa mère, elle-même, souvent dans sa biographie, s'opposait à l'injustice qu'il y avait autour d'elle. Mais son engagement est une manière pour une intellectuelle de se rendre compte que la libération contre l'oppression d'une race par une autre, en fait, c'est la libération de tout le monde. Quelqu'un qui est blanc en Afrique du Sud a autant intérêt, finalement, quand il s'agit de la liberté, à l'émancipation que quelqu'un qui est noir. Donc, dans son engagement, c'est pas simplement une générosité vis-à-vis d'autres, c'est aussi l'idée que je ne peux pas être libre si tout le monde ne l'est pas. Et je crois que c'est cette idée très forte qu'elle a incarnée dans son engagement.
Souleymane Bachir Diane, professeur de littérature à l'Université de Columbia, au micro de Range 54210, au micro de Jean-Roger Bion. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Wojtek Journiak. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec la chanteuse franco-malienne Ina Modja et le single « C'est la vie » issu de son premier album « Motel Bamako ». Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
La vie, ain't it true, how it grabs a hold of you, it's a mess, just a test, so I'll do what I can do, so I'ma ride this thing till it's over, ain't gonna hide, it's out of my hands, been fighting time, can't stop getting older, you go up, you go down, and the world rolls around, so keep on rolling. So keep on growing. Si je brûle ma vie de tous les côtés.
je brûle ma vie de tous les côtés, fume à volonté. Je lève mon verre de rouge ou de saké gin à ma santé.